Il est 20h, c'est l'heure de l'anti-sèche sur Marmite FM.
Bonjour à tous, bonjour, bonjour, hola, que tal, chicos et chicas, bienvenue sur Marmite FM dans l'anti-sèche, l'émission que personne
ne sèche.
Voilà, l'émission est à peine commencée, vous vous dites déjà, mais what? Où je viens d'atterrir? Eh bien, no panique, on est là pour prendre soin de vous et vous émoustiller votre culture. Voilà, bienvenue dans l'unique talk show culturel de la bande FM yvelinoise, ici... On est bien.
Très bien.
Et en plus, c'est magique. Vous posez votre cerveau pendant une heure pour nous écouter et vous ressortez reboosté comme Jaja, comme diraient certains.
Jaja.
Oui.
Tu ne dis jamais ça?
Non, moi non.
Bah oui,
mais certains
ça
le disent.
Ne te va pas.
Bonne humeur sur les lèvres et capital humain enrichi de culture. Bref, avec nous, vous faites le plein d'énergie. Alors profitez-en, le plein ici sur la station de Marmite FM, il est gratuit.
Il est pas cher.
Ce soir, focus sur un acteur culturel phare de l'agglomération. Une première dans cette émission, c'est le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines. Avec nous pour en parler, son conservateur du patrimoine, le directeur du musée, c'est Frédéric Debuche. Bonsoir.
Bonsoir.
On dit bien Debuche.
Debuche.
Très bien, j'ai bien prononcé. Waouh.
Ça va.
C'est rare déjà. C'est pas mal.
C'est pas trop compliqué.
Frédéric, enchanté. Bienvenue sur Marmite FM dans l'anti-sèche. C'est un honneur de vous accueillir ce soir.
Ah bah merci, c'est un honneur d'être là.
Parce que là, au bout de 6 saisons, on commence à peine à recevoir le musée, alors que certains grands acteurs de l'agglo, autres que vous, on en parlera tout à l'heure, sont déjà venus dans cette émission plusieurs fois. Donc c'est un plaisir.
Ça fait plaisir.
Voilà, Frédéric, profite bien de cette émission et on espère te convaincre pour pouvoir revenir encore. On n'a même pas encore parlé du musée, mais on souhaite déjà que tu reviennes. En tout cas, ce soir, pour en parler, c'est son grand retour. Après nous avoir fait voyager au Portugal il y a à peu près un mois, elle est à l'origine du thème de ce soir. C'est à elle qu'on doit cette émission sur le musée. On ne l'arrête plus de créer, de proposer. C'est Sophie. Comment ça va, Sophie?
Mais ça va très bien, et vous?
Bah écoute, ça va, impeccable. T'as passé un bon petit mois, tout ça, on est bien?
Mais oui, très très bien. Je vous raconterai pas tout, hein, évidemment, parce qu'on va pas parler de ça ce soir.
C'est un peu long,
mais je suis contente de vous retrouver.
Et bah écoute, nous aussi, le plaisir est partagé. Il est à la réalisation, il a assuré le direct la semaine dernière. Il fait à présent partie des grands, on peut le dire. Et s'il est sage, on pourra peut-être lui relaisser les commandes de l'émission.
Ça fait plaisir.
Qui sait? C'est Thomas!
Et oui! Salut, salut tout le monde!
Comment ça va, mon Thomas?
Ça va super bien, merci, je suis toujours content, je suis un peu dans les murs maintenant.
Oui,
je suis
là
tout le temps.
C'est vrai. Qu'est-ce que ça t'a fait alors de faire cette émission tout seul la semaine dernière avec Ronan, voilà, et Kevin?
C'était un plaisir, on s'est beaucoup amusé. Le podcast est disponible, bien entendu, allez l'écouter, c'était trop cool.
Ouais, vous pouvez aller l'écouter, déjà on a ri, hein, on a dansé.
Oh oui.
Oui, on a appris
des
choses.
On a fait des pompes.
On a appris beaucoup de choses également, notamment sur les extraterrestres.
C'est vrai, ouais, la chronique de Kevin qui était très intéressante et très... ouais, franchement,
parler... Il s'en rappelle même plus.
Si, voilà. Si, attends.
On a eu beaucoup d'émotions dans cette émission, donc allez-y, le podcast est en ligne, je vous rappelle, le site de Marmite FM, ou bien sur notre page Facebook, l'anti-sèche, également aussi sur Instagram, parce que Instagram, Thomas, n'est toujours pas cassé.
Non.
Voilà, et donc on est toujours dessus.
Ça va.
Pour l'instant. En tout cas, ce soir, émission dédiée au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, bien que Saint-Quentin-Yvelines est une agglomération. On va revenir pourquoi ça s'appelle comme ça, etc. C'est avec toi, Frédéric, dans quelques instants. Il y aura également un journal des bonnes nouvelles. Et Sophie, avec toi, on parle de quoi?
Pour les bonnes nouvelles?
Oui, non, pas pour les bonnes nouvelles, pour ta chronique.
Ah, pour ma chronique, eh ben, on va parler du design.
Ah, le design. Thomas, t'es design, toi, ou pas?
Moi, je suis un grand designer.
Okay. J'ai peur. Thomas, ce soir, ce soir, qu'est-ce qu'on fait avec toi?
Avec moi, on va jouer ce soir. On a un acteur culturel. On va faire des petits jeux de culture un peu. Là.
On va faire des petits jeux.
Et
de...
Ouais, on va voir un peu nos connaissances, un petit peu trifouiller dans nos méninges.
D'accord. Frédéric, est-ce que tu es prêt à jouer avec nous?
Bien sûr.
Bien sûr,
je suis là pour ça.
Ah bah. Très bien. Et pas que, puisque on va révéler toute la programmation du musée de la ville, ou du moins presque tout. Bref, ça sera dans quelques instants, mais avant, eh bien, c'est l'heure du journal. Le journal de quoi, Thomas?
Le journal des bonnes nouvelles.
Évidemment. Et on commence par les femmes ce soir. Et oui, honneur aux dames. Sophie, une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle. Eh bien, alors cet été, je m'envole découvrir le design suédois.
Ah !
Je vais avoir la chance de passer quelques jours à Stockholm. Et voilà, je reviendrai avec plein d'anecdotes sur le design suédois.
Tu vas quand ? À Stockholm ?
En août.
Quand en août ?
Non, mais tu viendras pas.
alors, dis-toi quand même, attends, en début août, je passe 2 semaines à Stockholm avec mes parents.
C'est vrai,
je jure que c'est vrai.
Donc vous serez en même temps en
camping-car, en fait, on va faire un tour en Suède et du coup, je passe à Stockholm à un moment donné.
D'accord.
Mais moi, j'y serai du 1er au 7, enfin, la première semaine.
Et bah, faut vous voir.
Peut-être que la première semaine, je serai pas encore arrivé en Suède.
D'accord.
Mais faut voir.
Frédéric, la Suède, tu as déjà été ?
Oui, une fois ou deux.
Ah, une fois.
Est-ce
ou
que
deux.
C'est sympa?
Ou deux, ou trois.
Ah oui, quand même, un adepte de la Suède alors. Et design suédois, ça te parle?
Un petit peu, ouais.
Un peu beaucoup ou...
Oui, oui, et puis il y a le design danois aussi qui est très important.
Ouais.
Werner Ponton, par exemple.
Très bien, ok, donc on a des connaisseurs. Ce que j'aime avec Sophie, c'est qu'elle te trouve une bonne nouvelle qui est liée à sa chronique, qui est elle-même liée à l'émission.
C'est très fort.
Franchement, c'est fabuleux. Une mise en abîme, une inception, comme on pourrait
coïncidence.
Dire. Coïncidence. Ou coïncidence, ouais, tout simplement. En tout cas, bah, bon voyage à toi en Suède et ramène-nous plein d'infos sur le design suédois. Rien à voir avec une grande marque d'ameublement.
Oh, bah non, quand même pas.
Non.
Pas besoin d'aller en Suède pour ça.
D'accord.
C'est vrai.
Une bonne nouvelle côté du musée de la ville, ou du moins de ton côté, Frédéric.
J'en ai beaucoup, en fait, des bonnes nouvelles. Et je pense que la vraie bonne nouvelle, là, c'est que le musée est invité à Marmite FM.
Ah, puisque, c'est une vraie bonne nouvelle.
Depuis 6 ans, c'est ça ?
C'est ça, ouais, 6 saisons. Ouais.
Voilà, donc je pense que ça illustre quelque chose quand même. Ça veut dire que voilà, le musée commence à faire partie des acteurs culturels importants du territoire. Et je le vois comme une très très bonne nouvelle.
Eh bien écoute, c'est une très bonne nouvelle, effectivement. Et c'est un plaisir de t'accueillir. Mais bon, je pense qu'on peut aussi. Je pense que le musée fait déjà partie des murs avant nous, quand même. redonnons à César ce qui est à César. Voilà, nous avons un peu traîné à faire l'invitation, mais l'invitation est faite. Et je répète. Tu reviens quand tu veux. Rassurez-vous, l'émission vient juste de commencer. Non, c'est commencé, il est 20h07. On est en direct sur le 88.4 Marmite FM et c'est la bonne nouvelle de Thomas.
Eh bah écoute, moi Julien, pour la bonne nouvelle, je vais être un peu original. Je vais parler d'un truc dont j'ai jamais parlé.
Ouh, j'ai peur. Cinéma ? Non, t'as eu un film en festival ?
Ouais, je vais parler de mon film, Mon Doudou. Je suis un escroc. À chaque fois, non, j'ai quelque chose d'original à dire. On a commencé la première projection de Vendée scolaire.
Ah.
C'était incroyable. C'était dans la ville de Saint-Cyr-sous-Dourdan, dans le 91, à la frontière 78.
C'est ça.
Et c'était très cool. Les enfants ont adoré le film, donc j'espère qu'on passera. J'espère qu'on passe ça dans les écoles, pourquoi pas de trappe. J'en lance un appel.
Bah oui, bah écoutez, toutes les écoles qui nous écoutent, n'hésitez pas, c'est un film sur le harcèlement scolaire. C'est un court-métrage qui a été travaillé avec des enfants, des Yvelines, on le rappelle, de la ville d'Hermeray. Et du coup, il y a tout un travail, une sensibilisation à la fois au cinéma et à cette notion de harcèlement. Et on projette le film avec la présence du réalisateur, donc toi Thomas, dans les écoles.
Exactement, donc, je viens avec plaisir.
Et tu peux aller partout.
Mais moi j'ai partout.
Même en Suède.
En Suède, mais j'y vais.
Voilà, très bien. Allez, autre bonne nouvelle. 2 heures de direct. Est-ce que ça vous tente ?
Ça me tente très bien.
2 heures de l'antisèche en direct. Alors, ce sera pas ce soir, mon Thomas. Calme-toi. Ça sera le 13 juillet. Retenez bien cette date. Le 13 juillet, c'est la dernière de la saison 6.
Et
oui,
okay.
Bah oui, déjà la dernière.
Saison 6. Mais c'est Breaking Bad le truc.
Ah, mais c'est pire que Netflix cette émission. Voilà, je peux déjà vous dire que la saison 7 sort en septembre. Hein.
Ah,
voilà.
J'ai hâte.
Alors, en tout cas, voilà, donc 2 heures pour la dernière émission avec tous les animateurs de l'émission ou presque, quasiment. Et ça va être 2 heures avec des jeux. Enfin, ça va être assez fou. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Le numéro, c'est toujours le même. Il n'a pas changé. C'est le 0130 51 78 78. C'est facile à retenir. Et même maintenant, vous nous appelez, ça marche. Vous dites allô Thomas. Et
bien
ça
sûr.
Fonctionne.
Il faut dire ça, hein, sinon je ne réponds pas, sinon je raccroche directement.
Par contre, si vous dites allô avant qu'il réponde, ça marche pas non plus.
Non,
c'est le concept du téléphone. Voilà.
Bon, personne ne va appeler, hein, si vous commencez comme ça.
Oui, c'est vrai.
Les conditions sont énormes.
Et tant qu'on est dans l'agenda, dernière bonne nouvelle, c'est le 6 juillet, émission spéciale Harry Potter. On va faire un trivial poursuite dans ce studio avec, ah oui, ça va être incroyable, avec toute l'équipe et certains d'entre vous. Bref, ça va être n'importe quoi, donc retenez bien, 6 juillet, 13 juillet, on sera toujours là. Et oui, on fera un peu d'heure sup, voilà. Hein,
c'est un plaisir.
L'été, voilà, alors qu'il fera 45 degrés dans le studio.
On fera un petit ventilateur.
Allez, ce soir, on vous présente le musée de la ville, je vous l'ai dit. Vous allez découvrir la programmation estivale en détail et même celle de la rentrée. Mais avant, on s'ambiance avec, eh ben oui, un titre. Eh oui, un titre. C'est le premier titre de la soirée, Thomas.
Exactement.
Est-ce que, Sophie, tu as deviné les notes de ce titre ?
Non.
Non. Frédéric, est-ce que ça te parle ? Pas du tout.
Non plus.
Eh bien, écoutez, il va bientôt chanter. C'est le groupe Caravan Palace qui arrive sur Marmite FM dans l'Anti-Sèche. You feel the pain, see the mess and trouble in your brain. Anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble bust. If you need a hero, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you, connected all. Every day is a miracle.
Cyberheads, you should think twice, cause they will make your brain melt. New device, better price, keep you feeling impressed. Stop it all, every day we'll live a miracle. Unpredictable, you don't need an upgrade anymore. Can't you see the link? Don't worry, I will teach you how to take the pill to feel the thrill and touch it all.
Dans l'Anti-Sèche sur Marmite FM, c'était Caravan Palace. Le titre, Thomas, tu peux nous le redonner pour ceux qui n'auraient pas chasamé
le
encore.
Le titre, c'était Miracle.
Miracle.
Miracle en anglais, avec mon accent magnifique.
Non, mais tu parles très bien. Justement, je vois qu'il y a écrit Break the Rules sur ton t-shirt. Donc,
ouais, mais ça, c'est pour faire genre que je parle anglais.
Ah oui, d'accord. On traduit alors Break the Rules
briser le mur.
Les règles.
Ah, mais wall, parce que j'ai cru que tu disais wall,
en
fait.
Non, ça, c'est mon terrible accent. Ok, d'accord. Ce soir, émission consacrée au musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines avec le conservateur. C'est monsieur Frédéric Dubuche qui était avec nous. Bonsoir, Frédéric.
Bonsoir.
Tout se passe bien jusqu'à présent.
Très bien.
Ça fait à peu près 14 minutes que tu es dans le studio à l'antenne en direct avec nous. Tout va bien.
Tout va très bien. J'attends avec impatience les questions.
Ok, d'accord. Bon, on a gratiné les questions, on a un peu travaillé. Thomas.
Non, en tout cas, tu reviens quand tu veux, Frédéric.
Effectivement. Sophie également qui est avec nous ce soir pour parler design ce soir.
Oui, design, parce que est-ce que vous savez ce que c'est vraiment le design ?
Ah,
c'est un mot qu'on utilise souvent, mais c'est pas si simple. Hein.
C'est pas si simple, on y reviendra tout à l'heure, et bien sûr, nous aurons le célèbre jeu des indices, on vous en dira plus un peu plus tard, mais en tout cas, retenez qu'il est...
Il est là.
Il est là, il est célèbre, il est célèbre. Merci Thomas de suivre cette émission. Tout de suite, c'est l'heure du... Eh bien, c'est quoi Thomas maintenant ?
C'est l'interview de l'invité.
Thank you. Il y a des mots magiques comme ça qui permettent de lancer des jingles.
Ça fait plaisir. C'est vrai.
C'est incroyable.
C'est une nouvelle technologie.
Oui, c'est ça. C'est fabuleux. Alors, ce soir, je le disais, le musée de la ville, je retrouve ma petite tige, voilà, il a été créé en 1977, si je ne me trompe pas.
Exactement.
On m'arrête, hein, si je me trompe. Et il retrace, comme son nom l'indique, l'histoire de 50 ans en Yvelines. Mais pas que, on va voir qu'on peut nuancer ces propos-là. On retrouve ce genre de musée d'ailleurs dans pas mal de villes, comme à Haguenau. En ce moment, vous nous écoutez sur la radio Hit Plus Radio, aussi en partage de programme. Vous êtes basé à Haguenau. Eh bien, il y a aussi un musée historique dans votre ville où on voit plutôt des collections permanentes sur des choses historiques, voilà, de l'âge de pierre jusqu'au XXe siècle. Bref, il y a plein de trucs. On est surtout sur de la pierre, je crois, si je ne me trompe pas, pour l'avoir visité. En tout cas, parenthèse, ici, on est bien à 50 ans en Yvelines avec le musée MUMED, voilà, le musée de la ville, on va dire, on va tout savoir tout à l'heure. Et Frédéric, avant de commencer, on va passer, on va un peu poser les choses. Toi, tu es conservateur du patrimoine, directeur de ce musée depuis combien de temps, finalement ?
Depuis presque 5 ans, donc c'est voilà, une histoire qui est déjà un petit peu ancienne, mais que je qualifie encore de récente.
Encore de récente, 25 ans, t'as dit, hein ?
5 ans.
5 ans, j'ai compris, 25 ans.
Non, 5 ans.
Moi, ouais, c'est pas trop récent quand même.
Ah non, c'est 25 ans, c'est pas récent, d'accord. Donc 5 ans, oui, c'est récent, effectivement. Et toi, Sophie, tu as déjà travaillé dans ce musée?
Oui, en fait, moi, j'ai eu la chance de faire un stage dans ce musée, en fait, dans le cadre de mes études.
Ouais.
Et donc, je me rappelle, j'avais passé un très, très bon stage, un très bon moment dans le musée. J'ai eu la chance de découvrir donc, les collections, les personnes qui travaillent dans ce musée, qui sont vraiment toutes vraiment extraordinaires et que je salue à travers Frédéric. Hein.
Ouais.
C'est vrai que j'ai un attachement moi particulier à ce musée et je pense que vous l'aurez compris.
On l'a compris.
Oui.
Elle nous a imposé le musée. Non, je non, au contraire, ça nous a ouvert les portes et merci beaucoup Sophie pour ce lien. En tout cas, ce musée, vous êtes sûrement passé forcément devant. Si vous êtes à 50 ans en Yvelines, soit parce que vous avez été au théâtre et vous êtes passé par là, soit parce que vous avez été à la médiathèque, soit parce que même vous avez peut-être ouvert la porte du musée, voilà, ou parce que vous êtes baladé autour des restaurants ou du petit étang. Mais ce musée, Frédéric, finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce musée?
Alors, c'est vrai que c'est un musée d'histoire, comme il peut en avoir beaucoup, mais la particularité du musée 50 ans en Yvelines, c'est qu'il est axé sur le 50 ans en Yvelines en tant qu'ancienne ville nouvelle. Donc, c'est en ce sens un musée tout à fait unique en France. Il n'y en a pas d'autres. Un musée qui est consacré à une histoire urbaine qui est assez exceptionnelle, hein. Ces villes nouvelles qui sont nées à partir des années 60 autour de Paris. Alors il y en a eu 5.
Ouais.
Paris et ailleurs, mais surtout ces villes nouvelles en région parisienne. Et qui témoigne de cette émergence de l'agglomération parisienne, mais aussi d'une architecture tout à fait particulière, enfin une architecture du XXe siècle. Donc c'est un musée du contemporain, de la modernité. Et en ce sens-là, c'est un musée assez original parce que effectivement, les musées d'histoire, on a plutôt tendance à parler de l'histoire très ancienne. Ici, c'est une histoire moyennement ancienne, on va dire, et une histoire en plus qui se continue puisque ce territoire est toujours actif. Et le musée de la ville a aussi pour vocation à accompagner ce que devient le territoire aujourd'hui.
Alors justement, une ville nouvelle, une histoire incroyable. L'histoire de 50 ans en Yvelines, on va profiter que vous soyez là pour en parler, parce que tout le monde ne la connaît pas, cette histoire. Si on peut la résumer, après si vous voulez aller en savoir plus, vous pourrez aller chercher sur internet. Mais en tout cas, Frédéric, comment on pourrait résumer cette histoire de 50 ans en Yvelines qui est passée par plusieurs étapes? Et je sais que Trappe est un élément central aussi dans cette histoire de 50 ans.
Oui, alors l'histoire est relativement simple, hein. Finalement, c'est... c'est dans les années 60, le gouvernement, comme je disais, décide de créer autour de Paris des villes nouvelles. Il y en a 5 à Cergy, 50 ans en Yvelines, Marne-la-Vallée, oui, et Melun-Sénart. Ces villes sont en général situées à 15, 20, 25 kilomètres de la capitale. Et l'idée est de créer des centres urbains autonomes où on peut s'adonner à toutes les activités d'une vraie ville, c'est-à-dire naturellement s'y loger, mais aussi travailler, se divertir, etc. Donc on voulait en fait rompre avec l'exemple des cités dortoirs, hein, qui ont beaucoup émergé dans les années 50-60, et prendre un petit peu le courant de ce pays-là pour avoir des vrais centres urbains. 50 ans en Yvelines, c'est donc développé. Il y avait déjà une ville, notamment Trappes, avec cette tradition ferroviaire qui est un grand centre ferroviaire
tout à fait, ouais.
Voilà, à côté de Versailles, il y avait ce noyau urbain, et c'est autour de Trappes notamment que les premiers essais de développement ont pris corps, avant de s'étendre à une dizaine de communes, en fait, sur l'ensemble.
Et si je ne me trompe pas, il y a un étang, là, sur Trappes, avec la réserve naturelle, c'était l'étang de... Ou c'est d'ailleurs toujours l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines.
C'est l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est à cheval aujourd'hui sur Montigny et Trappes.
Et c'est de là qu'est parti le nom de la communauté d'Aglo.
Oui, parce qu'il y avait une petite chapelle avec les reliques de Saint-Quentin, de Saint-Quentin dans l'Aisne, et qui a finalement donné le nom à ce territoire aujourd'hui. Enfin, à l'époque de l'EPA, de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle.
Donc voilà un petit résumé quand même de cette histoire. Si vous habitez à Saint-Quentin, moi je trouve ça fabuleux, parce que cette histoire, j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. C'est grâce à Kenan qui était dans l'émission aussi avec nous, qui faisait l'auditeur mystère, qui lui a une culture de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est juste incroyable. Et je trouve que cette histoire, elle est passionnante. Et quand tu as grandi à Saint-Quentin et que tu connais pas cette histoire, bah, quand tu la découvres, c'est juste fascinant. Thomas, tu allais ajouter quelque chose?
Non,
je t'ai vu lever la main, t'agiter.
Ah, j'ai kiffé l'histoire. J'ai écouté l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire de l'étang et tout ça.
Et ben écoute, on va demander une autre histoire alors, justement. Parce qu'on voit écrit, donc sur la façade, il y a bien écrit musée de la ville, il y a aussi écrit Mumed. Alors je sais pas si on dit Mumed ou autrement, en tout cas, comment ça se prononce et qu'est-ce que ça veut dire?
Alors le Mumed, c'est le musée médiathèque, puisque le musée. a été transféré il y a 6 ans à l'intérieur de la médiathèque. Donc c'est un équipement culturel double, voire triple, hein, puisque le théâtre est juste à côté. Voilà. Ce qui crée un vrai grand pôle culturel au cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Alors c'est ça, justement, il y a véritablement une action culturelle. Alors qui est faite par les acteurs que l'on connaît. Le musée, vous le connaissez sûrement à la maison, qui est en train de nous écouter. Quelle va être cette action culturelle, finalement, du musée, qui ne s'arrête pas au musée entre ses portes lui-même, je pense, elle-même.
Oui, alors c'est aussi un musée déjà qui ne s'arrête pas qu'à la seule fonction de l'histoire urbaine, puisque nous possédons aussi plusieurs collections. D'ailleurs, un musée, c'est d'abord ça, c'est d'abord des collections. Et nous, notre collection phare, c'est la collection de design.
Tout à fait.
Sophie va parler plus. Plus tard. Donc, cette collection qui a été constituée au cours des années 90, en fait, puisque l'idée était de faire pendant à l'architecture. L'architecture montre, en fait, le cadre urbain, l'espace public et le design, la collection qui en fait ratisse très très large. Hein. Nous avons à la fois des objets de mobilier, de nouvelles technologies, des jouets, du textile. On l'appelle d'ailleurs précisément collection design et mode de vie. Elle a pour véritable vocation d'illustrer la manière dont les foyers, dont les intérieurs étaient équipés, et notamment dans les années 60-70, période qui correspond à l'émergence de la ville nouvelle. Et donc on a en fait, avec d'un côté l'architecture et de l'autre côté le design, les deux versants finalement d'un même ensemble, l'extérieur, l'intérieur, et c'est sur cet axe-là qu'on veut développer notre projet de musée.
Alors justement, on parle d'années 80-90, il y avait cette expo orange.
Oui.
Et je pense à ça parce que dans ces années-là, ou peut-être un peu avant, je ne sais plus, il y avait tous ces trains orange. Tout à l'heure, on parlait de Trappes, la SNCF, etc. Et on avait fait avec cette référence avec toi, Sophie, à l'antenne, il y avait les trains orange. Et donc, cette expo orange, est-ce qu'elle retraçait ça aussi ou, en plus de ce qu'elle retraçait?
Alors, comme notre collection est essentiellement axée sur les années 60-70, évidemment, le orange est très présent dans les objets qu'on possède. Je crois qu'il y a, sur notre collection de 3000 objets, il y en a 700 qui possèdent au moins en partie la couleur orange. Voilà. Donc c'est dire combien cette couleur était répandue. Et on a voulu, à travers cette exposition, essayer de comprendre ce phénomène de la couleur orange qui émerge là, brutalement, à la fin des années 60, qui se répand... ensuite très largement dans les années 70, et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que c'est un phénomène qui est quasiment universel, puisqu'à la même époque, on parlait tout à l'heure de la Suède ou du Danemark, le design scandinave, de la même manière, avait une prédilection aussi et un goût prononcé pour le orange, jusqu'en Asie ou aux États-Unis. Voilà, c'est le phénomène qu'on essaie d'illustrer dans cette exposition.
Sophie ?
Oui, mais alors moi, du coup, j'ai l'impression que suite à cette vague, ce boom de orange, maintenant, on est complètement écœuré d'orange. En fait, j'ai l'impression que c'est une couleur qui a un peu disparu des radars et des objets qui sont fabriqués aujourd'hui.
Sauf pour une grande marque de téléphone qu'on
oui,
a fait.
Oui, c'est la seule, en plus. si tu réfléchis à ta culture visuelle, tu vois plus trop d'orange.
C'est vrai, c'est vrai.
Oui, alors, c'est vrai que par la suite, elle est devenue... J'irais une couleur parmi d'autres, mais après une phase où on ne voyait quasiment qu'elle.
Voilà. Ou associée plutôt à une fête aussi américaine, à Halloween.
Oui, c'est vrai.
Souvent, on associe l'orange à cette fête.
Ou à Casimir.
Ou à Casimir. Ben voilà, tu vois, finalement, on a des références quand même
et
avec
oui, mais
l'orange.
Tu sais que de base, Casimir était vert.
Ah oui, et puis c'est vrai ?
Ouais, et ça, je l'ai appris au musée de la ville.
Ah !
Parce qu'il était vert, et quand tu passes à la télé, t'es devant un fond vert, et donc vert sur vert.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, ça marche
fait
pas.
Orange.
Exactement. Et du coup, dans le lien, est-ce que le musée a des liens avec toutes ces œuvres qu'on peut voir un peu partout dans 50 ans en Yvelines ? Je pense à l'Arche Bleue à côté du Vélodrome. Je pense à la statue sur la place Claudel qui tourne. La statue tourne, c'est incroyable. Vous passez tous les jours, elle n'est jamais dans le même sens.
Les spaghettis aussi.
Les spaghettis à Elancourt. Est-ce que le musée joue un rôle
face Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement une troisième facette du musée. Qui est celle de l'art public. Alors qu'on rejoint là le territoire, naturellement. Ces œuvres ont été constituées à l'époque de l'aménagement de la ville nouvelle. Et la communauté d'agglomération est propriétaire de 40 œuvres, dont certaines monumentales. Tu as cité l'Arche de Kowalski, ouais. Il y a aussi la perspective de Martapan qui se trouve près de l'université, etc. Donc des œuvres majeures qui sont dues à des grands artistes internationaux et qui donnent à ce territoire une identité assez forte qui l'ancre vraiment dans la modernité et qui forme aussi point de repère. Voilà.
C'est vrai que ces œuvres, elles sont assez impressionnantes quand tu connais pas, tu passes devant, tu te dis « Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a une arche bleue ?» Sauf que, ben, en fait, l'arche, il a quand même un nom. Hein, tu viens de le dire, Frédéric, est-ce que tu peux le répéter ?
Kowalski, c'est le nom de l'artiste.
Voilà, de l'artiste, donc ouais. C'est l'arche de Kowalski. Mais voilà, il y a vraiment une vraie histoire, et souvent, tu passes à côté, t'es dans ton rond-point, ou t'es dans les bouchons, t'y prêtes pas forcément attention, mais il est là. Et voilà, c'est comme pareil, la perspective de Martapan, qui a aussi donné son nom à la maison de l'étudiant, à l'université de Saint-Quentin. Pour ceux qui ne voient pas, c'est au niveau du bâtiment Edison de Télé 78 où il y a deux espèces d'anneaux là, deux c'est espèces ça, d'arches ouais. Et dans la perspective qui rentre dans le centre commercial où derrière il y a les statues avec les canapés en pierre là, tout ça.
Oui, en terre cuite, mais...
Mais ça, ce n'est pas elle.
Non, ça, ce n'est pas elle. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans cet art public, c'est qu'il peut avoir des confrontations de style assez spectaculaires puisque le canapé, cette œuvre-là est due à un artiste qui s'appelle Denis Mondineux qui a œuvré, on va dire, dans une veine relativement académique, ouais. En tout cas figurative. Alors, il a changé l'échelle de ses personnages, hein, qui sont assez monumentales dans l'espace urbain. Et juste à côté, on a cette œuvre de Martapan qui, elle, est au contraire fondée plutôt sur des notions de géométrie, de pureté, d'abstraction. Et on a comme ça un contraste très très fort quand on se promène sur ce territoire. Alors, je n'ai pas dit non plus que le musée était notamment impliqué dans la restauration de cet art public, parce que c'est des œuvres qui ont maintenant 30, 40, ouais. 40 ans. Et donc, il faut s'en occuper, il faut les restaurer. Parce qu'elles font véritablement patrimoine et elles participent de l'identité de ce territoire.
Sophie ?
Oui, et du coup, j'en profite pour vous dire, ne collez pas vos chewing-gums ou vos autocollants dessus, hein, surtout,
effectivement, ne faites pas ça. D'ailleurs, quel type de public, finalement, va venir au musée de la ville ? C'est des touristes ou c'est des habitants d'ici, des curieux, des gens qui ont l'habitude de pousser la porte et qui reviennent ? En général, quels vont être ces publics ?
On a surtout un public local,
ouais.
Familial, on le voit sur l'exposition Orange, et qui traverse aussi un petit peu les générations. C'est intéressant de voir certaines personnes qui viennent avec leurs petits-enfants, leur montrer les objets de leur enfance. Mais on a aussi la claire ambition d'aller chercher un public extérieur. Et d'ailleurs, on le voit sur les dernières expositions, et notamment sur l'exposition Orange, qu'on commence à avoir un public qui vient d'un petit peu plus loin que Saint-Quentin-en-Yvelines.
Okay.
On l'a vu notamment pour la Nuit des Musées. Et ça, on le voit comme un bon signe et comme quelque chose qui s'installe. On a vraiment l'envie d'être un musée de référence en matière de design.
Ouais.
Et notamment sur le design de ces années-là, les années 60, 70, qui correspondent en fait à la naissance de cet art. Hein. Avant, on parlait de décorateur.
Ouais.
La notion de design est relativement récente. Et on a la place pour défendre ce projet qui est assez original dans le paysage général des musées nationaux.
Alors justement, si vous voulez aller découvrir ce musée, déjà il faut venir à 50 ans en Yvelines, forcément, et il va falloir aller pousser cette porte du musée de la ville qui est située en bas, à côté du petit étang.
La porte s'ouvre, ouais, toute seule.
Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est une petite astuce,
oui,
qu'on,
oui,
vous donne.
Elle est automatisée.
Effectivement. Donc il n'y a même pas besoin de la pousser, voilà, il n'y a pas d'effort à faire. Et bien sûr, il y a une programmation estivale avec cette exposition Archie Week.
C'est ça. Qui marque la fin du printemps ou le début de l'été.
Ouais.
Puisque on rejoint donc ces différentes facettes du musée. On parle de design, mais on parle aussi d'architecture. On en parlait au début. Et donc on propose à partir de cette semaine, et notamment vendredi, alors une journée d'études axée sur la question de l'architecture du logement à 50 ans en Yvelines.
Okay.
L'idée est de traiter tous les ans un des grands thèmes architecturaux du territoire. L'an prochain, on s'intéressera de la même manière à l'architecture des sièges d'entreprise, qui est une caractéristique très forte de 50 ans en Yvelines. En 2024, aux équipements sportifs, etc., en lien avec les JO. Mais cette année, l'Archi Week, donc à partir du 17, porte sur le logement, l'habitat, qui est un patrimoine, là aussi, d'un ordre tout à fait exceptionnel.
Alors, on peut rappeler les dates, c'est jusqu'à quand cette expo, l'Archi Week ?
Alors,
c'est jusqu'à la rentrée.
Alors, c'est pas une exposition, hein. C'est, l'Archi Week, c'est à la fois cette journée d'études le 17. Donc, on pourra suivre une série d'interventions qui évoqueront cette question de l'habitat à 50 ans en Yvelines, suivie dans les jours qui suivent de visites du territoire. Donc là, le plus simple, je pense qu'on ne pourrait pas déployer là tout le programme, mais c'est d'aller consulter sur le site du musée le programme complet de cette opération. Et en matière d'exposition, l'exposition Orange, bon, il faut se dépêcher puisqu'elle va fermer ses portes le 2 juillet.
Donc c'est bientôt.
Voilà.
Donc allez-y, allez au musée de la ville, le musée d'ailleurs, on continue d'en parler avec toi, Frédéric. Tu es le conservateur, le directeur, c'est comme ça qu'on dit finalement.
Oui,
oui. Oui, parce qu'il y a les deux titres, il y a directeur du musée, mais il y a aussi conservateur du patrimoine. C'est quoi le vrai titre ?
Ah, ça,
c'est les deux.
Directeur, c'est le responsable
de l'édifice.
De l'équipement, on va dire.
Ouais, de l'équipement, ouais.
Conservateur, c'est ça correspond à un grade de la fonction publique.
D'accord, alors très bien. Donc tu préfères qu'on dise quoi ? Conservateur et directeur, comme ça, tout le monde est d'accord. Impeccable, ça fera plaisir.
Je suis d'accord.
T'es d'accord, Thomas ?
Je suis d'accord avec l'idée.
Et bon, on continue d'en parler. Dans un instant, on va même axer sur le design. On a un petit peu abordé le sujet. Bah, Sophie va nous en dire un petit peu plus avec ses anecdotes. Le temps de retrouver nos crayons. Et bah oui, parce que qui dit design dit maquette, dessin et pas que, vous allez voir. C'est tout de suite, juste après, une copine, je la connais pas. C'est Juliette Armanet, le dernier jour du disco dans l'Antisèche.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau.
waouh.
Ouais, t'as vu un peu qu'elle voit.
Là, franchement.
Tu sais quoi, elle était malade pour son dernier concert. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux la remplacer? J'ai dit, non, écoutez, Clara Luciani, comme ça. Et ben non, ils m'ont dit, c'est Juliette Armanet. Ouais, eh oui, ouais, incroyable. J'ai dit, mais les gars, je sais, c'est une vanne. Le dernier jour du disco, Juliette Armanet, c'était dans l'Antisèche sur Marmite FM. Ce soir, on parle du musée de la ville. On va parler de design avec Sophie et ses anecdotes dans quelques instants. Thomas, le jeu des indices tout à l'heure, en toute fin d'émission. Et bien sûr, on a toujours oublié quelque chose et c'est la première fois dans cette émission qu'on va le faire à partir de 20h37. On va lancer ce jeu qui est fabuleux, qui s'appelle l'antisèche. Vous avez tous pioché un petit papier. Frédéric, qu'est-ce que t'as pioché ce soir?
Oui,
tu peux lire.
Alors. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Voilà, une plus. Citation de...
De Jean-Claude Van Damme. Et ça me fait vraiment beaucoup rire de l'entendre lire par Frédéric.
Ok. Thomas, qu'est-ce que t'as pioché?
Moi, c'est la castagne.
La castagne.
Très facile.
Ok.
Oh là là.
Sophie?
Moi, c'est indice et koala dans la même phrase.
C'est joli.
Oh, le jeu des indices.
Oui, c'est facile à faire.
Fait spécial dédicace.
En tout cas, voilà, il vous reste plus que à peu près 22 minutes pour essayer de placer ces phrases. Normalement, le jeu commence à peu près à 20h01. Voilà, à peu près 20h05 même. Hein. Bon, allez, même 6. Bon. En tout cas, je m'excuse, c'est de ma faute. Mais le jeu démarre maintenant. Si vous avez la possibilité de le placer, eh bien, tant mieux. Si vous n'avez pas la possibilité, je ne vous en voudrais pas autant que l'habitude. Et oui.
Ah oui,
quand
parce
même.
Que là, on arrive dans des moments un peu compliqués.
Ouais, mais là, c'est là, on va voir le level.
Ah,
et oui, il y en a qui sont là depuis le début.
Championnat
donc,
du monde.
Attention, championnat du monde de l'antisèche. Mais avant ça, ce soir, c'est les anecdotes de Sophie. Et donc, avec ce musée de la ville, on a parlé de design et avec plus de 3000 pièces, Frédéric. C'est bien ça, on a bien écouté.
Exactement, 3000, voire un peu plus, puisque c'est une collection qui ne cesse de s'enrichir. Et il faut naturellement continuer à prospecter, à essayer de récupérer des objets, parce que c'est des objets qui ont été produits en masse à une certaine époque. Mais dans 20-30 ans, il y en aura plus.
C'est fort.
Oh,
peut-être.
Oh, c'est fort.
Le jingle de l'antisèche.
C'est très très fort, le jingle de l'antisèche.
C'est arrivé vite, hein.
Et oui, c'est. Non, mais franchement.
Et calé parfaitement en plus.
Calé parfaitement, tout, il y a tout, franchement. C'est... L'invité a tout compris. Moi, je pense qu'on peut te réinviter.
C'est validé. C'est la condition.
C'est donc les anecdotes de Sophie. Le concept, c'est simple. On parle d'art, on donne des anecdotes, etc. D'ailleurs, j'en ai une à vous donner sur le musée. Faites-y moi penser. Je sais pas comme ça. C'est comme ça qu'on dit cette phrase. Je me suis embrouillé en cette phrase.
Faites-moi penser.
Bon, bref, vous m'y faites penser. Sophie, le design.
Oui, ce soir, je vous qu'on parle de design hein, en écho aux collections du musée de la ville, mais aussi parce que c'est un mot aujourd'hui qu'on utilise un peu à tout va, moi j'ai l'impression.
Ouais.
Quand on veut qualifier un objet d'aspect un peu étrange, un peu cher, qu'on comprend pas trop, on dit bon, c'est design. Voilà.
C'est ça. Et... Ou à l'inverse, tu vois, même Thomas, par exemple, des fois, moi je lui dis, t'es pas design aujourd'hui, tu vois.
Ah oui, tu dis ça toi.
Ouais, très ça peut arriver, ouais, très souvent.
Et je le prends très mal, est-ce que je devrais
Alors, et du coup, voilà, j'avais envie de revenir un peu sur l'histoire du design parce que je pense que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est.
Ah oui, c'est vrai. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est?
Alors, un indice, ce n'est pas un koala.
Ah, oh,
c'est faux.
Oh.
C'est
pas mal.
Validé quand même.
Non, c'est très bien. Je m'y attendais pas.
Bon. Et bah, toi, pour toi, Julien, c'est quoi le design?
Pour moi, le design, c'est quelque chose assez artistique, travaillé avec à la fois de manière artistique, mais à la fois de manière cérébrale, on va dire, et qui est très réfléchi, qui peut parfois être abstrait, parfois très concret, et souvent qui donne une finition, quoi, un truc joli.
Oh, c'est complexe.
C'est une,
hein.
Ouais, c'est une définition hyper complexe.
Toi, t'as fait le bac de philo aujourd'hui, toi.
Ouais, ouais.
Ça se voit. C'est très complexe.
Et toi, alors, Thomas?
Écoute... Non, le design, pour moi, en exemple, architecture. L'architecture va être dans la faisabilité du truc et le design, en fait, va être dans
la conceptualisation
l'esthétique,
des choses.
L'esthétique, en fait, ce qu'on va voir, nous.
Ouais, c'est intéressant. Et du coup, Frédéric, t'en penses quoi de ce qu'ils ont dit là, de ces définitions?
Il y a beaucoup de points communs entre l'architecture et le design, je trouve, parce que il y a une forme de donner un objet en fonction de son usage. Donc, l'architecture, comme le design, répondre à ces critères.
Oui, en fait, c'est exactement ça. En fait, design, en fait, étymologiquement, vient du mot italien disegno, qui signifie dessin. Et donc, le design, c'est avant tout une histoire esthétique. C'est une histoire de forme, c'est une histoire physique. Et alors, en fait, le design, c'est allié à la fois à l'esthétique et l'efficacité, le pratique. Donc, c'est des objets du quotidien qui vont avoir une forme, voilà, un peu belle, un peu particulière, qui sort de l'ordinaire. Alors, pour revenir un peu sur l'histoire du design, design, en fait, le design arrive à un moment de la révolution industrielle, donc au 19e siècle, où voilà, les usines, les machines se développent et on commence à produire des objets en série de manière rapide. Sur des modèles simples, voilà, pour produire rapidement, il faut produire simple. Et donc, les ménages sont un peu dotés des mêmes équipements, hein, et ce qui est encore vrai aujourd'hui, puisque je pense que chacun d'entre nous ici a dû avoir une bibliothèque Billy à un moment dans sa vie.
Billy, ah ça, Billy. C'est les meubles Ikea.
Ouais, tu okay. vois, la colonne,
ah oui, c'est
on
la
en vend, je crois, dans le monde, une toutes les 30 secondes, quelque chose comme
c'est
ça,
vrai.
Voilà. Ouais,
c'est le truc basique, là,
c'est ça.
Okay. Waouh, incroyable.
Voilà, et donc en fait, face à cette montée en puissance de la production massive des objets en série, il y a des artistes et des artisans qui vont commencer à concevoir, en fait, leur propre modèle d'objet, donc souvent unique ou en quelques exemplaires. Donc au départ, on ne parle pas de designer, hein, mais comme disait Frédéric, on parle de décorateur, ouais. on parle d'art décoratif, donc ça, c'est un peu l'ancêtre, si on veut, du design, donc je simplifie beaucoup les choses, hein. Mais voilà, ils vont créer des choses qui sont belles et fonctionnelles. Donc leur volonté était de ramener la beauté en même temps que la qualité chez les gens. Et donc cette mouvance touche autant le mobilier du quotidien que l'architecture, que l'automobile, la mode, voilà. En fait, tout peut être design finalement. Alors, je vous ai dit, je simplifie énormément les choses, hein, parce qu'il faut avoir conscience que le design, c'est un sujet qui est extrêmement sérieux. On a de nombreux théoriciens qui ont proposé chacun leur vision. Il y a de nombreux ouvrages sur le design. Et c'est pas simplement dessiner sur une feuille, sur sa tablette, et puis ensuite fabriquer. Hein. C'est une réflexion sur à la fois le matériau, sur la technique, sur la production, sur la consommation, sur le mode de vie, sur l'utilité, sur le prix. Voilà, le design, ça touche en fait un peu tout dans la vie du quotidien. Vous vous en rendrez compte maintenant que vous avez écouté cette chronique, vous n'échapperez plus au design. Et donc, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que le design est un sujet en constant développement qui ne cesse de questionner nos modes de vie. Et donc, Frédéric disait que voilà, les collections de la ville ne cessent de s'enrichir parce qu'on ne cesse de produire du design, voilà, dans nos modes de vie. Et alors, donc, plus on avance dans le temps, donc, c'est-à-dire que, voilà, c'est quand je dis plus on avance dans le temps, donc, il y a le 19e siècle et puis ensuite, voilà, il y a les guerres qui arrivent. Et en fait, après, donc les années d'après-guerre, pardon, on se rend compte que le design, en fait, commence à s'immiscer petit à petit dans nos quotidiens et façonne nos rapports aux objets et à l'utilité. Et en fait, donc c'est dans ces années d'après-guerre que des modèles aujourd'hui dits iconiques font leur apparition. Et là, donc, je fais référence à des objets donc, qui sont dans les collections du musée de la ville. Donc, par exemple, des fauteuils gonflables. Je ne sais pas si vous avez en tête les espèces de fauteuils gonflables, un peu comme on voit sur les piscines.
Ah,
un
ouais.
peu transparent, un peu orange.
Ouais,
voilà.
Ouais, ouais.
Donc ça, c'était aussi typique de certaines années d'après-guerre. Ou encore, on a le sacco, donc, qui est une, en fait, imagine une poche de sky, donc un peu une sorte de matière plastique, remplie de billes de polystyrène sur laquelle on s'assoit.
Ah
donc
oui.
c'est quelque chose de totalement informe, si tu veux, une sorte de pouf comme ça, informe en plastique.
Ouais, ouais.
Donc,
aussi ce qu'on appelle aussi les poires, des fois.
Alors c'est pas tout à fait une poire, oui ça peut être une poire, mais c'est, voilà, c'est quelque chose de très informe.
D'accord.
Donc, qui est au musée de la ville. Et en fait, c'est aujourd'hui des objets un peu iconiques qui ne sont plus vraiment vendus. Enfin, voilà, tu me dis si je me trompe, Frédéric, mais qui du coup font partie du musée de la ville et qui démontrent quelque chose d'une époque donnée, voilà, qu'on aimait avoir des choses assez spéciales aussi chez soi.
D'accord, donc le design, on n'était pas très loin, Thomas.
Non, vous n'étiez pas loin, ouais.
Bah non.
On avait les mots à notre sauce.
On avait les mots justes.
Non, justement, pas très justes.
Nos mots justes.
Mais là, c'est quand même vachement mieux dit, tu vois, vachement mieux expliqué.
Ah bah, c'est un peu plus long, surtout.
Ouais, c'est plus
précis.
Clair,
plus voilà.
Et alors, c'est précis, mais c'est quand même assez rapide. Hein. Je vous fais une histoire du design vraiment sauce tomate rapide, quoi. Tube de ketchup, bref.
C'est
alors
ça.
Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours à une époque de production de masse, hein, ça n'a pas changé, mais on est aussi à une époque de production série design, puisque certaines enseignes conçoivent des produits voilà, pratiques, esthétiques, pas chers, produits en très 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 grande quantité, pas toujours de qualité, mais on est un peu à l'ère du design pour tous. Et ça, je pense que vous vous rendez compte, non?
Ouais.
Ouais,
totalement, totalement. Thomas, t'as des trucs, toi, de design chez toi?
J'ai tout tes designs, c'est tout tes designs en fait, si j'ai bien compris, non?
Bah oui, tout tes designs.
Donc j'ai des trucs chez moi, donc oui, j'ai des trucs design chez moi. Voilà.
Et toi, t'as un truc design chez toi?
À part moi-même? Non.
Tu es très design.
Je sais pas, parce que du coup, maintenant, je suis un peu brouillé avec toute cette explication.
Ah, c'est pas simple. Hein.
Toute cette définition, je me dis, bon, si j'ai un truc design, ça s'appelle un mutant price. Vous ne savez pas ce que c'est juste l'imitation. Enfin, c'est même pas une imitation, c'est une sorte de parodie d'un César et qu'on a gagné pour un film.
Oui, voilà. Mais est-ce que c'est utile et pratique dans le quotidien?
Alors, c'est utile parce que,
non.
Oui, je peux dire que je l'ai eu. Hein, c'est joli, ça me satisfait quand je le contemple. Et pratique, Non, pas forcément.
Si, tes petits tabourets chez toi, Julien, là.
Mes petits tabourets.
Tes petits poufs, là.
Ouais, ah si, ils sont un peu design, effectivement. Voilà. Effectivement, un petit tabouret design, ouais.
Voilà, donc on peut tous en trouver quelque chose de design chez soi.
Mais finalement, tout le monde est tout est design. Tout bah, est designé d'une manière ou d'une autre,
c'est
surtout
un peu
avec le marketing,
hein,
etc.
Bah, demandons à Frédéric, un spécialiste du design, si tout est vraiment design, Frédéric.
Tout l'est peut-être, mais après, il y a du bon et du mauvais design. C'est surtout ça qui fait la différence. Je pense que tout ne l'est pas forcément, mais et c'est ce qui dissocie déjà le design de l'art. Hein. L'art, c'est une production artistique normalement unique, enfin même s'il peut avoir des multiples. Hein. On peut tirer une lithographie en plusieurs exemplaires, une photographie en plusieurs exemplaires, mais on n'est pas trop là dans la notion de design. Le design, c'est quand même un objet manufacturé aussi. Historiquement, c'est un peu ça. Et dans ce registre-là, on peut avoir du bon et du moins bon.
Mais finalement, je disais, avec le marketing, on est obligé d'aller
designer
des choses, etc.
Oui, justement, tu anticipes un peu la fin de ma chronique. Ah. Félicitations. Donc, effectivement,
c'est qu'elle est bien construite. C'est pour ça.
L'esthétisme et l'apparence, en fait, sont des choses sur lesquelles, aujourd'hui, les consommateurs sont assez sensibles. Et ça, c'est vrai que c'est aussi dû au marketing, puisqu'aujourd'hui, si on veut vendre, on fait très attention à l'apparence et aux détails, y compris chez les éléments high-tech, donc smartphone, ordinateur, console de jeu, casque. Donc voilà, tout y passe et les concepteurs de produits mettent en avant le design épuré, sobre, graphique, qui va droit au but. Vous savez, voilà, ces phrases qu'on entend un peu pour chaque produit, pour chaque lancement de produit, hein, qui à force ne veulent plus vraiment rien dire. C'est quoi un design sobre, graphique, efficace? Voilà,
c'est
on
vrai.
Se perd encore maintenant dans des termes marketing. Hein.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, est-ce que le design n'est pas un peu noyé dans la masse de production à grande échelle? Ça, c'est aussi une question. Bien qu'il y a toujours des designers qui vont signer des choses un peu uniques, de manufacturées, d'excellente qualité. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est pas un peu perdu dans tout ça?
Thomas,
est-ce que le design n'a pas tué le design, finalement?
Ouais. Oh là là. Il y a de la philosophie. C'était toi qui étais ce matin en train de plancher.
Hein,
mais on va demander à notre invité, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que le design a tué le design?
Alors, moi, la période sur laquelle travaille le musée de la ville est la période, je trouve, l'âge d'or du design. Enfin,
ouais.
C'est un point de vue très, très personnel, hein, naturellement, mais ces années, ce qu'on appelle les années pop, correspondent vraiment à l'origine de ces productions qui cherchent à allier à la fois la beauté, l'usage et la production de masse démocratique. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à partir de septembre prochain, on accueillera une exposition sur la marque Prise Unique, qui a beaucoup contribué à la démocratisation du design dans les années 60-70. Et d'ailleurs, c'est une exposition en fait en partenariat avec le Musée des Arts Décoratifs à Paris, puisque cette exposition a été présentée là-bas jusqu'au mois de mai. Et on la reprend à 50 ans en Yvelines, de façon adaptée, bien sûr, à nos espaces et à notre projet scientifique. Et cette période-là correspond sans doute à une sorte d'accomplissement en la matière.
D'accord, très bien. En tout cas, le design, c'est aussi dans la musique, Thomas, le design.
Le design, bah bien sûr.
Arrêtez de mettre le design à toutes les
fois. On dit pas le sound design.
Non, parce que c'est... Ah, le sound design, mais c'est pas du design exactement. C'est comme ingénieur du son. Un ingénieur du son n'est pas ingénieur.
Ah oui, c'est vrai.
C'est le sound design.
Mais c'est vrai qu'il y a un design du son maintenant. Une portière de voiture qui claque est étudiée pour qu'elle claque de façon sonore et significative.
C'est ça. Et même avec l'arrivée de la technologie numérique à la radio, ce qu'on appelle le DAB+, il y a une recherche de son et d'identité numérique et sonore quand vous écoutez une radio, pour que vous la reconnaissiez d'une manière ou d'une autre avec votre inconscient ou pas, donc un peu lié au marketing évidemment, mais surtout à ce design sonore. En tout cas, la musique, on va en écouter, puisqu'après on va jouer. Thomas, t'es d'accord?
On va jouer.
Tout le monde est prêt pour jouer au jeu des indices?
Bah oui.
Ouais, Frédéric.
Bien sûr.
Est-ce que tout le monde est prêt pour jouer au jeu des
indices?
On est prêt. Bon, alors avant, qu'est-ce qu'on écoute, Thomas? Dis-moi.
C'est Bruno Mars avec le titre Treasure.
Bruno Mars, lui aussi, il est prêt. Il est maintenant dans l'anti-sèche. You walk around here like you wanna be Mars dans l'Antisèche sur Marmite FM, le 88.4 est toujours en forme autour de cette table. C'est Thomas à la réalisation,
yes.
Sophie également au design,
oui,
de
design.
L'émission, et oui, et Frédéric, notre invité, le conservateur et oui, du patrimoine de 50 ans en Yvelines, directeur du musée de la ville. Bonsoir.
Bonsoir. Il y a une petite ambiance.
Une petite ambiance. On pose les choses puisque c'est l'heure de jouer. Et oui, je vous ai dit qu'on allait jouer. Eh bien, on joue tout de suite. On joue à quoi, Thomas ? Comment ça s'appelle ce jeu ?
On joue au jeu des indices.
Je te l'ai dit. Il y a des mots magiques qui l'ont
fait. C'est très fort, mais j'aime beaucoup ta nouvelle technologie. Le jeu des indices, bien entendu, je rappelle les règles pour ceux qui ne la connaissent pas, comme par exemple Frédéric, ou les auditeurs qui nous rejoignent. Le jeu des indices est très simple, j'ai 20 indices pour faire deviner soit une chose, un lieu ou un personnage, donc c'est-à-dire au début je dis ce qu'on cherche quand même, je dis si c'est un personnage, un lieu ou une chose. Vous me donnez chacun votre tour un chiffre entre 1 et 20, je vous donne l'indice correspondant et vous pouvez me proposer une réponse. Si c'est ça, bravo, vous avez gagné. Si c'est pas ça, on passe au suivant. Parmi les 20 indices, j'ai 2 indices sonores. Alors c'est très simple, les indices sonores, donc c'est des indices qui s'écoutent, tout peut être un indice. C'est-à-dire un petit passage de l'indice et je vous ai brouillé, mais là c'est quand je suis un peu méchant.
Ouais.
Ou alors tout peut être un indice dans le morceau. Et aussi 2 indices, les indices spéciaux bien entendu, mais ça vous saurez plus tard si vous tombez dessus, ça fait toujours plaisir. Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'on peut commencer ?
Je pense que c'est bon, tour de la table, on peut commencer.
Alors on commence avec un personnage, donc on cherche un personnage, il peut être mort, il peut être vivant, il peut être fictif, il peut être... c'est une personne qu'on cherche, une personne.
D'accord.
Et on commence avec qui, Julien ?
Avec Sophie.
On commence avec Sophie, donne-moi un chiffre entre 1 et 20, Sophie.
7.
Le numéro 7, j'ai vécu au 20e siècle.
Ah ouais, mais c'est hyper large là. Ah
c'est
ouais.
Très large.
C'est très large.
Ah, cet indice est très
large. Tant une réponse, un personnage qui a vécu au 20e siècle.
Ah bah, Picasso.
Ce n'est pas Pablo Picasso.
Ah non. Dommage.
Julien.
Numéro 5.
Le numéro 5, je suis un écrivain, Julien.
Ah. Qui a vécu au 20e siècle, c'est.
Oui.
Alors attention, au 20e siècle, un écrivain, faut pas que je me plante.
Alors,
Marc Lévy.
Alors non, Marc Lévy, c'est pas... Ah, quoi que s'il a vécu au XXe siècle, mais...
Ouais, j'ai tenté un auteur récent, sachant que ça sera pas lui.
Non, mais... Frédéric, un chiffre entre 1 et 20 au hasard.
15.
Le numéro 15, c'est l'indice sonore. Écoutez bien.
Aimer à perdre la raison. Aimer à n'en savoir que dire. À n'avoir que toi d'horizon.
Ah oui, c'est facile.
Voilà.
J'ai trouvé.
C'est l'indice sonore. Est-ce que tu as un personnage à me proposer, Frédéric?
Celui qui chante?
C'est un indice sonore. Si t'as écouté les autres indices, plus celui-là est un indice supplémentaire. Ça peut être celui qui chante, ça peut être celui qui a le sound designer de.
C'est ça.
Du
sinon, ça voudrait dire un écrivain qui chante.
Par exemple.
Par exemple.
Un écrivain qui chante peut-être. Du 20e siècle.
Peut-être.
Non, peut-être pas. C'est...
Ah oui.
Peut-être pas. En fait, chaque indice est un indice. Du coup.
C'est un indice sonore.
On sait que c'est un écrivain qui a vécu au 20e siècle. Et là, il y a une chanson. Est-ce que
qui est en rapport avec ce personnage.
Qui est en rapport avec ce personnage.
Alors,
tu peux passer, si tu veux passer, tu passes. Il n'y a pas de problème.
Ouais, je passe.
Ok.
Sophie.
Non, je ne vois pas. Ah, un chiffre.
Un chiffre.
Ah, je vois les chiffres. Deux.
Elle ne peut pas jouer. Le numéro 2, c'est l'indice sonore numéro 2. Écoutez bien.
Donc ici, on va rentrer dans l'univers des livres. C'est un bourreau de travail, il travaille énormément. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites ici. Notamment, on peut citer la Semaine Sainte, parce qu'on voit là tous ces livres reliés cuir qui ont servi de base à l'écriture de ce roman.
Sophie, une petite idée?
Mais je ne vais toujours pas.
Tu okay. peux passer, du coup.
Mais je passe.
Julien,
je peux donner une idée sans chiffre?
Alors ça veut dire, attention, si c'est pas ça, on passe à Frédéric.
Ouais, pas de problème. Shakespeare.
C'est pas du tout Shakespeare.
Bon, dommage.
Je suis désolé.
Dommage. C'est dommage. J'étais chaud. J'étais lancé.
Frédéric, non. Un chiffre entre 1 et 20
4.
Le numéro 4, je dois ce que je suis à Elsa. Je dois ce que je suis à Elsa.
Eh bah.
Aragon.
C'est pas à toi de jouer.
Pardon.
Dis-moi, est-ce que du coup, t'as une idée?
Ah, c'est pas mal comme idée, ouais.
C'est ça, c'est Aragon, bravo. La victoire. Effectivement, donc le premier indice audio, c'était Aimer à la perte de la raison de Jean Ferrat, qui est un poème de Louis Aragon.
Ah oui, et moi j'ai pensé Aimer la comédie musicale, Roméo et Juliette, le livre, tout ça, enfin l'histoire de Aimer.
Et l'indice audio numéro 2 était un reportage de nos amis de TV78 à la maison Elsa Triolet et Louis Aragon à certains moments du film.
Ah, beau gosse, beau voilà. gosse, pas mal. Très beaux indices, très belles références, bravo mon Thomas. Bravo.
Un petit personnage de la région, en plus, ah, oui. du département.
Ah, du département et en oui. plus, oh, oui. Oui. Oh, la grande classe. On peut rappeler le personnage, je m'en rappelle plus.
C'est Louis Aragon.
Non, je plaisante. C'est bon. Allez, en tout cas, Thomas, est-ce qu'on peut remonter un petit peu le son? Voilà. Ce ukulélé de fin. On aime ce ukulélé. Frédéric Debuche, un grand merci de nous avoir ouvert les portes du musée de la ville ce soir.
Eh ben, merci surtout à vous.
On rappelle les dates à la rentrée.
L'expo Prise Unique?
Ouais, il y a Prise Unique, c'est en septembre. Il y a Archie Week, il y a la fin de l'expo Orange jusqu'à 2 juillet.
Archie Week, c'est ce vendredi, à partir de ce vendredi, okay. 17 juin, la fin
Journée
de l'exposition.
Mondiale de l'agriculture.
Ah, c'est vrai.
Voilà.
La fin de l'exposition Orange le 2 juillet, donc il faut se dépêcher. Et la prochaine exposition Prise Unique à partir du 15 septembre, et il y aura les journées du patrimoine aussi en septembre.
Évidemment, le 21
grand événement.
On retient toutes ces dates, bien sûr. Merci beaucoup au musée de la ville d'être venu ici au micro de la marmite. Merci Sophie pour cette chronique aussi bien designée que le design.
Oh, merci.
On se rappellera de quoi de cette chronique?
Que tout est design.
Que tout est design, évidemment. Et que la journée internationale du surf, c'est le 18 juin.
Oui.
Thomas, merci beaucoup pour cette réalisation et ce jeu des indices très très court aujourd'hui.
Alors,
jeu des indices
oui,
express, mais on est à la bourre.
Oui, bah oui, comme
et
ça.
On est toujours à la bourre. Donc écoutez les amis, on se dit à la semaine prochaine avec une émission exceptionnelle. On n'a rien prévu, on sait pas encore ce qu'on va faire, mais Thomas,
ça va être très bien.
Ça va être fou, on va le faire. Gros bisous à tous. Ciao ciao.
Salut.
À la semaine prochaine. Salut. Ciao ciao.
Ciao.